fait marcher, c'est surtout ma curiosité, je dois dire. Bonjour, nous accompagnons dans la rue Jan Spurk, sociologue, auteur de « Contre l'industrie culturelle » et c'est paru aux éditions Le Bord de l'eau.
Je fais partie des rares et peut-être heureux, je ne sais pas, mais en tout cas très conforme au parcours institutionnel. Moi, je n'ai jamais fait autre chose, donc j'ai fait mon bac. J'ai fait des études sociaux parce que je voulais bien les faire.
C'est votre bac ou vos humanités ?
Bonne question. Soyons un peu ambitieux, peut-être les deux à la fois. Non, comme je dis, j'ai choisi ce parcours. Après mon bac, cette fois-ci, vraiment, j'hésitais, ça paraît peut-être un peu curieux, quoi, mais c'est vrai, entre la médecine, la philo et la socio. Voilà, donc j'ai choisi la socio, j'ai fait un parcours universitaire tout à fait normal, quoi. J'ai jamais quitté ce milieu. J'ai eu, je ne sais pas, comme tout le monde, malheureusement, des périodes un peu difficiles. Mais comparé à d'autres, j'ai eu plus de chance, je crois, que d'autres. Donc, ça fait maintenant presque 40 ans que je suis dans le milieu et ça m'a formé, quoi. J'adhère pas à une école, pas du tout. Ça correspond aussi un peu à mon trajet de formation, ce que je peux faire dans ma vie professionnelle. Disons, si je fais, comment dire, à vue d'aujourd'hui, je dirais moi, personnellement, je me situe quelque part entre l'école de Francfort, une certaine lecture du marxisme, donc. Comment dire, pas structuraliste, même très antistructuraliste, mais aussi la critique phénoménologique ici en France qui revient un petit peu, quoi, de Sartre, de Merleau-Ponty, de cette génération. Et l'école de Francfort, bon, j'ai fait mes études à Francfort, j'étais formé à l'Institut, mais comme je suis arrivé fin des années 70, on les appelait les vieux. C'était vraiment lecture obligatoire, ça faisait partie de la formation, quoi. Doit passer par d'autres choses. Et c'était vraiment une domination qu'à l'époque je trouvais un peu pesante, mais avec le recul, j'ai beaucoup appris d'une dispute finalement de l'interprétation du marxisme. C'est ça qui a dominé, quoi. Et j'ai remarqué beaucoup plus tard, par un détour, c'est un long travail sur justement la phénoménologie française, cette phénoménologie de Merleau, de Sartre, que j'ai quand même appris beaucoup plus que je croyais de l'école de Francfort. Et je me suis repenché, je crois, c'est aussi une question de comment dire, d'âge peut-être, de maturité intellectuelle. Je me suis approprié pour la deuxième fois, ou peut-être pour la première fois véritablement, ce qui a été cette école de Francfort. Donc je ne me situe pas dans la chapelle, pas du tout, parce que c'est castrateur, quoi. C'est castrateur. On prend d'abord les interdits qui définissent une chapelle ou un courant ou une école, c'est plus poli peut-être. Et tout ce qui est productif, ce qui permet d'aller au-delà des écrits de l'école de Francfort, admettons des années 50, que j'aime beaucoup, mais ce sont des écrits des années 50, le temps est passé. Après 70 ans ou presque, le monde n'est plus le même. Et donc s'enfermer dans une école avec ses rites, d'abord, ça j'aime pas du tout, ça m'étouffe, C'est, à mon avis, le pire qu'on puisse faire dans un travail intellectuel. On peut pas dire n'importe quoi, ok, mais c'est pas parce que, admettons, un Adorno a écrit que c'est le dernier mot de l'histoire. Voilà, donc, moi, je me situe, c'est pas toujours facile, mais je trouve ça assez stimulant, quoi, entre différents courants qui m'apportent quelque chose pour penser aujourd'hui,
Du spurkisme, alors.
C'est un peu ambitieux, mais en tout cas, j'essaie pas de copié sur je sais pas quoi. Donc ça établit ce que je vois, ce qui m'interpelle pour le comprendre.
Pourquoi ces penseurs du XXe siècle et d'avant sont toujours pertinents?
Je prends le problème par l'autre bout, si j'ose dire. Je pars d'aujourd'hui.
Alors, quelle est la question que j'aurais dû poser?
La question de dire pourquoi ils sont pertinents, ça veut dire qu'on les commence déjà à couper en tranches de doxa de chapelle, quoi, si j'ose dire. Ma question vient vraiment par l'autre bout, de me dire, aujourd'hui, dans la société où nous vivons, quoi, sont quoi les potentiels de dépasser ce fatalisme, ce malaise dans la société qui est quasiment omniprésente, quoi, qui marche tous les bouts de champ. Et de regarder dans ces analyses d'une autre époque, ce qui est une continuité dans la société. Ça change toujours, évidemment, quoi. La société d'aujourd'hui n'est pas la société de Marx, hein. C'est une banalité. Mais il y a des explications qui sont à actualiser, évidemment, quoi, mais qui formulent des continuités. Hein. Par exemple, la pénétration par l'industrie culturelle d'une logique d'échange et la logique du capital en général, ébauchée dans les écrits de Marx, et ça, je reprends. Pour prendre un exemple, c'est comme ça, Sartre, cette expression vraiment un peu, peut-être même un peu obscon, quoi, du pratico inerte chez Sartre, qu'on agit dans une situation, donc il y a pratique, hein, on n'est pas passif, déterminé, on agit pour reproduire la situation qui nous pèse, qui empêche notre liberté, pour faire vite, comme Sartre dirait. Ben, c'est une idée qui est de toute actualité. On se balade ici quand même dans une zone commerciale, quoi, hein, disons comme ça. Hein, ça s'appelle politiquement correct différemment, ok, mais ici, ces rues sont là pour vendre, pour s'amarcher, quoi, hein, dans le sens le plus concret du terme. Alors, on a le choix. Est-ce qu'il y a là une pharmacie, on peut acheter des trucs. Là, il y a un snack. On a le choix entre des marchandises. C'est-à-dire, on peut se faire plaisir, hein, par exemple, prendre un café, là, hein, pour rentrer dans le moule qui nous frustre, qui laisse des manques, des souffrances, de dire, bon, tiens, je me fais une matinée agréable, comme en baladant en ville, de rencontrer peut-être des gens, prendre un café, et cette pratique que je veux libératrice pour moi fait que je rentre dans le moule. C'est un cercle vicieux, quoi, hein, qui se referme, et c'est une idée que je trouve extrêmement pertinente, et sorte à donner des arguments qui m'ont toujours convaincu. Comment expliquer cette situation? Parce qu'on est quand même à peu près conscient, mais pas plus bête que les autres. Hein. Voilà, ce sont deux exemples, quoi, pour des apports, des écrits, des classiques, comme on dit, des écrits d'un autre temps, qui permettent de mieux comprendre cette société, qui, une fois de plus, a une histoire, il y a des continuités. On ne peut pas dire, parce que ce qui est vrai, que l'apparence de la société d'aujourd'hui, c'est plus la France des années 50. Ok, mais c'est pas pour ça qu'on doit bazarder tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été expliqué dans le passé. Je sais pas si on s'est fait avoir. Ce qui s'est passé avec le recul, disons, les 30 dernières années, c'est une énorme mobilisation de subjectivité, quoi, de nos consciences, de nos sentiments, de nos vies, pour le capitalisme tel qu'il est. Ce n'était pas une grande manipulation, je ne sais pas quelle conspiration. Non, la plupart des gens étaient bien consentants, étaient même très impliqués, c'était presque jouissif, de se donner dans cette exaltation de la marchandise, de la consommation, de la concurrence, de succès, de je sais pas, tout ce qu'on peut citer pour être bien dans la société et du coup bien dans la peau. Ça n'a pas duré très longtemps, ok, mais les dégâts sont là. Parce que les projets d'avenir sont extrêmement flous. Il reste, comme tu dis, un malaise, des peurs, des instabilités qui, s'il n'y a pas un autre projet ou des autres, il y aura toujours plusieurs projets d'avenir. Là, on peut se référer à l'histoire, ou en général donner des appels à des solutions autoritaires, hein. Que ce soit un Louis Bonaparte ou un De Gaulle, ou des exemples, il y en a des dizaines et des dizaines, malheureusement. Donc l'enjeu est peut-être d'élargir ces marges de liberté qu'on a toujours, hein, d'utiliser autrement un espace public comme la rue Marchande qu'on a traversée tout à l'heure. Mais, véritable question, pourquoi faire donc la finalité? C'est quoi le but? Est-ce que le but est de se réinstaller complètement illusoire dans une nouvelle messe de la marchandise, ou pour en faire autre chose, de nous épanouir, donc d'être plus libre? C'est un autre mot pour dire la même chose.
Nous avons quitté le monde marchand pour pénétrer dans la cour du château des Ducs de Bretagne. On est en face d'une équipe qui est en train de monter une installation. On peut la décrire, hein. C'est un petit bateau de pêche en plein milieu de la cour du château. On est là dans l'industrie du spectacle.
D'abord, il faut regarder l'objet, quoi.
Hein, on va faire le tour.
Ça ne se dissipe pas. A priori, l'art, surtout l'art plastique, j'aime beaucoup, c'est peut-être un des rares secteurs, disons, de la production intellectuelle et artistique, où la transgression d'aller au-delà de ce qui est établi se fait le plus consciemment, disons comme ça. Hein. C'est pour ça, d'abord, il y a beaucoup de loupés et que je... Comment dire, que je constate, hein, mais ce n'est pas pour dénigrer quoi, le travail des artistes contemporains, au contraire, que j'aime beaucoup. Et la réponse à votre question, est-ce qu'on est dans l'industrie culturelle ou dans l'art, vient de l'objet. Donc il faudrait interpréter cet objet. Qu'est-ce que l'objet artistique me dit? C'était un bateau de pêche, un tout petit. Ces plaques de métal, qu'est-ce qu'il signifie? Qu'est-ce que ça donne à mon imaginaire? Qu'est-ce que je peux... penser au-delà d'un bateau de pêche qui ne sert plus, donc c'est le passé. C'est pour moi un mode de vie. La pêche, c'est beaucoup plus qu'une industrie ou une technologie. Hein. C'est un mode de vie d'hier, donc qui ne correspond plus à notre société d'aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on peut trouver comme source, comme inspiration, comme force sociale et intellectuelle dans ce passé pour construire autre chose? C'est à peu près le correspondant de votre question de tout à l'heure, qu'est-ce que je fais avec les théories je sais pas, d'un autre âge, quoi, d'un Sartre, d'un Marx, ainsi de suite. Et là, je regarde parce qu'ils sont vraiment en train d'installer, et je me demande pourquoi ils habillent carrément le bateau avec ces plaques. Je vais m'approcher un petit peu.
Jean Blaise, directeur du Voyage à Nantes. Et Yann, je pourrais qui a écrit...
Ah, contre l'industrie culturelle. C'est très bien. Ça, c'est de la création artistique. En live, en plus. Ça va être très beau.
What's the signification of your installation here?
This is an authentic, a real Turkish boat that carried migrants from the coast of Turkey. To Greece.
Ce petit bateau a transporté des migrants, c'est un bateau turc, quoi, de Turquie sur des îles grecques. Donc il a vraiment servi. C'est un bateau qui a réellement servi.
And it is here because it is part of the exhibition of refugees carrying icon that is happening in here, so it is part of that exhibition.
Le bateau fait partie de l'expo dans le musée. C'est les migrants, donc ils ont sorti des quatre murs cet objet, quoi.
So what it represents, these votives, these little square metal plaques, are prayers for each person that we put on the icons. Sometimes we say, please God, help me do this. Please God, may I have a safe passage.
Nous accompagnons dans la rue Yann Spurk, auteur de Contre l'industrie culturelle, et c'est paru aux éditions Le Bord de l'eau.
So
Les plaques métalliques sont des plaques qu'on met en Grèce sur les icônes, ou en dessous plutôt. Ce sont une sorte de prière, quoi, ou de remerciement de Dieu.
Ex voto.
Ex voto.
Yes. Here, these I made myself with the real names, the date of birth, and the country of origin of each refugee that came to Greece. There are 10,000 names here in the recent years that I took from the port authority.
Donc sur les plaques sont gravés les noms et les dates d'arrivée des réfugiés, mais sont les noms réels des réfugiés qui sont venus en Grèce, et en tout il y a 10 000 plaques qui seront installées, quoi.
So, and I mix them with old votives. So here is a plaque that says Soukia is the first name, the date of birth, the country of origin.
Alors on a un exemple. Donc là on a une plaque où donc il y a le nom ou le prénom Soukira 1997, donc ça correspond
la date de naissance,
la date de naissance
and the country of origin.
L'Afghanistan.
So here we have Amina 1958 Palestine.
Amina 1958 Palestine, on a Amani 2005 qui vient de Palestine aussi.
This is another one. This is Ratna Siri, 1972, Sri Lanka. So all these people have come from Turkey to Greece. And these are the original votives that they put in the on the icons in church.
Donc ces plaques avec les noms, les dates de naissance et le pays, mais il y a aussi des originaux, quoi, de ces plaques métalliques qui servent pour des raisons religieuses, quoi. Certainement une réflexion un peu plus longue, mais ça c'est une œuvre d'art parce que ça me permet de penser au-delà de ce qui existe. Déjà la combinaison, quoi, des éléments, hein, du symbolique qui sont quand même très clairement affichés, ça me stimule de penser différemment que dans le discours habituel politique ou moralisant sur ce désastre qu'on appelle les migrants, quoi, hein, une expression un peu cynique, mais bon, passons, quoi. Donc on peut faire de l'art. Et je pense, connaissant un petit peu ce milieu, que l'art contemporain est même très très vivant, très très productif, hein, qu'il y ait d'un côté une façon extrêmement valorisée, vraiment là, de l'industrie culturelle, pour regarder ce qu'il y a habituellement dans les grands expos, pour avoir un exemple, hein. Il y en a beaucoup, des grands expos de l'art contemporain, ce sont des véritables opérations de marketing qui sont portées par des entreprises de marketing. Les grands musées sont devenus des entreprises et vous trouvez, ça m'est arrivé là il n'y a pas longtemps, la même expo, modifiée selon le lieu un tout petit peu, que j'ai vue à Paris, j'ai retrouvé à Berlin. Donc j'étais par hasard, j'ai vu la fiche, mais tiens, ça c'est intéressant, j'y vais. Une fois dedans, je me mets à deux, trois détails près, la même expo. Voilà, et ici, on a une création. On a une création. Et ça aussi, c'est un exemple pour ces marges de liberté qui existent, qu'on doit, je crois, pour vivre autrement demain, on doit les exploiter. On doit y aller, quoi. On verra bien en faisant jusqu'où on peut aller, quel est le résultat. Mais comme on l'a fait consciemment, on peut s'autocritiquer. On dit, bon, voilà, tu as eu peut-être pas la bonne idée, mais bon, la prochaine fois, on fera mieux.
Merci à Yann Spurk, auteur de « Contre l'industrie culturelle » et s'est paru aux éditions Le Bord de l'eau. Merci à Jean Blaise et à
Calliope Lemos
pour leur libre participation à ce reportage.
Ce qui me fait marcher, c'est surtout ma curiosité, peut-on dire. Pas seulement sur le plan intellectuel, hein, aussi dans les rapports amicaux ou autre chose. Comment dire ? La curiosité de comprendre, quoi, de vivre des choses avec des gens qui ne s'imposent pas.